Aujourd'hui, on continue encore notre petite série d'études sur les nouvelles positions qu'on a en Jésus. Cette semaine, je me disais, ben là, il faudrait passer à d'autres choses. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. Je demandais au Seigneur de me donner d'autres choses, puis me redonner deux autres sujets à prêcher sur ce sujet-là. J'aimerais passer, vous dégager de ce sujet-là, mais le Seigneur, il y a encore des choses à révéler à son peuple. Des belles choses, parce que c'est des belles positions qu'on a en Jésus. Ce qu'on explique de semaine en semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, on est en train d'étudier quelles sont les nouvelles positions qu'on a en Jésus une fois qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Une fois qu'on est sauvé, parce que la Bible, elle dit, il faut naître de nouveau. Mais une fois qu'une personne, elle reconnaît qu'elle est pécheur, qu'elle reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, si on reconnaît ça, puis on dit, je veux être pardonné, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, puis je veux le recevoir et le pardon, mais là, tu demandes pardon au Seigneur, puis tu lui dis, tu lui demandes de te pardonner, tu lui demandes de te purifier, puis à partir de cette journée-là, tu es rendu une nouvelle personne. À cause que tu as reconnu ton état, mais le Seigneur, lui, c'est ce qu'il voulait que tu fasses, que tu reconnaisses ton état, puis tu dises au Seigneur que tu lui demandes pardon, puis il va te pardonner tes péchés, il va te donner le Saint-Esprit, il y a une nouvelle vie qui commence. C'est ça, de naître de nouveau. Un nouveau départ, t'es pardonné, puis là, il te donne son Saint-Esprit pour marcher dans ta nouvelle vie. Puis là, ça te donne, en partant cette nouvelle vie-là, un paquet de nouveaux statuts devant Dieu. Pas des statuts, là, des images, puis des images sculptées, mais des statuts comme des positions que tu as en Jésus. Dieu te déclare, tu es maintenant cela, tu es maintenant cela. Puis on a vu plusieurs. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que nous sommes, grâce au Christ, à Jésus, devenus ses bien-aimés. Puis vous allez voir que c'est beau qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Je vais vous poser une question. Seriez-vous étonné de savoir que Dieu n'aime pas tout le monde d'une manière égale? Parce que on le sait que Dieu est amour, que Dieu aime sa création. Il a, ce qu'il a créé, c'était parfait, c'était bon, c'était beau. Mais il a créé ses créatures aussi. Mais il n'aime pas tout le monde d'une manière égale. Comme des parents, des fois, ça peut arriver qu'ils aiment plus un de leurs enfants qu'un autre. Des fois, c'est parce qu'il y a des raisons pour cela. Mais c'est en tant que quand c'est tes enfants, en principe, tu seras supposé de tous les aimer égales. Mais dans la création, Dieu n'aime pas d'une manière égale toutes ses créatures. On va comprendre pourquoi. Au départ, Dieu n'avait qu'un seul favori, un seul chouchou, un seul bien-aimé, quelqu'un que Dieu aimait tendrement, qu'il chérissait, que son regard était sur lui, son attention était sur lui. Jésus nous a été présenté comme étant le Fils bien-aimé de Dieu. Puis ça, faut comprendre ça. Autant que Dieu, il nous dit qu'il y avait un seul Fils, c'était Jésus. On est toutes ses créatures, mais on n'est pas tous ses enfants. Puis en tant que ses vrais enfants qui viennent de Dieu comme tel, créés par Dieu pour être son enfant, il y a juste Jésus fait homme qui était vraiment le Fils de Dieu envoyé. Mais Jésus n'était pas juste le Fils de Dieu, il était aussi le Fils préféré de Dieu. Ça, on voit ça, que Jésus était présenté comme cela, comme dans Matthieu 17 au verset 5. Il était sur une montagne avec trois de ses disciples. Puis là, il y a eu une vision. Là, les disciples ont vu la vision. Le Seigneur était transfiguré. Son visage est venu rayonnant comme le soleil. Ses vêtements sont venus blancs. Puis là, il y a Moïse et Élie qui ont apparu à Jésus pour s'entretenir sur sa mort prochaine, comment est-ce qu'il devait quitter Jérusalem. Puis pendant qu'il était en train de parler, Dieu le Père a fait entendre sa voix à tous ceux qui étaient là, sur cette montagne-là. Il y avait Pierre, Jean et Jacques, les trois disciples de Jésus qui étaient avec Jésus. Puis dans cette vision-là, Dieu le Père s'est révélé puis a dit, comme il parle encore, la nuée lumineuse les couvrit. Et vous, ça, c'était comme si la présence de Dieu venait de descendre cette montagne-là. Puis voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ça, c'est pas arrivé juste une fois que la voix s'est faite entendre, la voix de Dieu le Père, en parlant que Jésus était son Fils bien-aimé. Même aussi à son baptême, ça s'est produit. Puis il y a peut-être d'autres moments que ça s'est produit que la Bible nous dit pas. Dieu a voulu qu'on comprenne clairement que Dieu avait un seul Fils bien-aimé. Puis quand on parle de bien-aimé, là, le sens du mot grec que là, ça veut dire élu, aimé, cher à ses yeux, qui était estimé, qui c'était son favori, puis était digne d'amour. Il n'y avait que Dieu seul, que Jésus seul qui était le favori de Dieu. Et c'est quelque chose quand tu penses à ça. Des fois, on se pense nous-mêmes, là, en tant qu'humains, on se pense important. Bon, des fois, ça m'est arrivé moi-même quand dans ma vie, je me pensais le nombril du monde, le centre de la planète, le plus important de cette Terre, puis les autres, c'était tous des pas importants. On se pense de même comme ça, des fois. Ça vous est-tu déjà arrivé? Puis aux yeux de Dieu, il y avait juste un bien-aimé, un seul que Dieu chérissait, son chouchou, son favori, celui qui avait été choisi par Dieu, c'était Jésus qui était Dieu lui-même, fait homme. Le favori de Dieu dont Dieu chérissait. Quand il dit, j'ai mis toute mon affection, toute l'affection de Dieu t'a centré sur Jésus seul. Jésus était la seule raison d'existence de la planète. Parce que tout l'ensemble de l'humanité marchait d'une manière qui était désagréable à Dieu, qui marchait dans le péché, qui marchait dans les débauches, dans l'offense à Dieu tous les jours. Il n'y a juste un sur toute la planète, dans toute l'histoire de l'humanité, qui plaisait vraiment à Dieu, puis qui accomplissait le dessein de Dieu, puis c'était Jésus. Le Père avait une profonde affection envers son Fils, puis il le regardait comme si c'était le précieux, le plus précieux de tous ses fils. Mais en réalité, il n'y avait juste un, parce que la révélation n'avait pas encore été donnée pour dire que Dieu adopterait d'autres gens pour faire partie de sa famille. Mais c'était le Fils principal, on dirait le Fils aîné, le premier-né. Pas qu'il est le premier à naître, parce que Jésus n'est jamais né. Il existait de toute éternité, mais il était le premier à être créé par Dieu comme étant le Fils. Mais en réalité, c'était Dieu incarné dans cette personne-là. Toute l'affection de Dieu, le mot affection veut dire que Dieu prend plaisir. Tout le long de sa vie, quand Dieu regardait Jésus, là, mais il prenait plaisir de la manière que Jésus marchait, de la manière que Jésus pensait, de la manière que Jésus parlait. Tout ce que Jésus faisait était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était le seul qui était sans péché. Sa conduite était immaculée. Tu sais, dans ce qu'on a appris dans l'Église catholique, l'Immaculée Conception, mais en réalité, c'est pas Marie qui était immaculée, c'est Jésus qui est l'Immaculée, sans tache, sans défaut, sans péché. Marie était comme tout le monde. C'est pas grâce à Marie que Jésus était sans tache et sans péché. C'est à cause que Dieu a mis Jésus dans le ventre de Marie. Toute la gloire revient à Dieu, parce que c'est par le Saint-Esprit que Jésus est immaculé. Dieu mettait son affection, il prenait plaisir. Ça veut dire aussi qu'il trouvait bon. Puis il disait que ça lui plaisait, que ça lui était agréable. La vie de Jésus était agréable au regard de son Père. Puis son Père aimait Jésus de l'amour la plus grandiose qu'on peut pas s'imaginer. Il y avait rien pour altérer son amour. Comme j'expliquais tantôt, combien de fois nos enfants qu'on aime nous ont fait souffrir, nous ont fait de la peine. Puis il y en a des fois qui ont tellement vécu de peine qu'ils ont de la misère à aimer leurs enfants. Puis ça, ça arrive. Puis ça, c'est sûr qu'on a des blessures, puis nos blessures nous mettent comme un recul, puis on est comme sur nos gardes, puis on a peur de se faire blesser encore davantage, puis on a de la misère à pouvoir l'aimer vraiment. Mais Jésus n'a jamais fait quoi que ce soit envers son Père qui aurait pu l'offenser ou y faire même un sourciller. De dire, oh, ça, non. Tout ce que Jésus faisait était 100% parfait. Merci Seigneur. Parce que grâce à sa vie parfaite, il a pu nous racheter en prenant notre place sur la croix et en mourant à notre place pour qu'on puisse, que nos péchés aillent sur lui puis que là, il est l'innocent qui a payé pour les coupables, nous. La venue du favori de Dieu, là je parle de Jésus, celui qui marcherait selon la volonté de Dieu, était prophétisé dans l'Ancien Testament. Il faut comprendre que l'Ancien Testament, c'était écrit avant Jésus. Puis là-dedans, tu avais des prophéties qui annonçaient la venue de Jésus. Puis il y en avait plusieurs sens, mais la seule qu'on va voir aujourd'hui, ça parle de celui qui sera le favori de Dieu. Dans Matthieu 12, verset 17 à 21, ça nous parle dans un passage qui est à référer dans Isaïe le prophète. Ça dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi. Ça, c'est comme si ça sera Dieu le Père qui parle de Jésus. C'est une prophétie qui annoncerait la venue de Jésus. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. C'est un serviteur de choix, Jésus, aux yeux de son Père. Mon bien-aimé, en qui mon âme prit plaisir. Dieu prenait plaisir en Jésus, puis c'était annoncé d'avance. Il dit, je mettrai mon esprit sur lui, puis il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. À cause qui était annoncé, il est venu, c'est Jésus. Puis Jésus qui est venu, il est venu pour accomplir cette prophétie-là qui avait été annoncée. Ça, ça n'est une, mais il y en a plusieurs prophéties qui annonçaient sa venue. Puis Jésus y est venu, puis il était celui qui était choisi par Dieu son Père, celui en qui Dieu l'aimait comme un bien-aimé, un amour total. Puis il dit, Dieu avait pris, son âme avait pris plaisir en lui. Puis que l'Esprit de Dieu sera sur lui, puis là, il pourra vivre d'une manière qui annoncerait les choses de Dieu. De marcher d'une manière qui plaisait à Dieu, puis que ça a le fait que toutes les nations, par la suite, pouvaient espérer en son nom. Si on a accès à espérer dans le nom de Dieu, puis obtenir des promesses de Dieu, c'est à cause de Jésus. Autant, puis moi, je pense que autant que Dieu il trouvait que Jésus, c'était son favori et son bien-aimé. Je pense qu'on devrait avoir la même attitude envers Jésus. Parce que c'est grâce à Jésus qu'on accepte toutes les promesses de Dieu. On devrait aimer Jésus comme Dieu le Père aimait Jésus. L'apôtre Pierre nous a expliqué que Jésus a été honoré et glorifié par Dieu son Père devant tous comme étant le favori de Dieu, le méritant de son affection. Dans 2 Pierre 1,17, ça nous dit, c'est Pierre qui parle en parlant de Jésus, il dit, « Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire devant tout le monde. Quand la gloire magnifique, en parlant de Dieu le Père, lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu, il a glorifié Jésus devant tout le monde en disant, « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Je peux pas dire que j'ai marché de façon à ce que vraiment que je sois le nombril du monde ou le favori de Dieu. Ma vie n'était que péché devant Dieu. Mais lui, Jésus, il a marché de façon à ce que Dieu prenne le temps de dire à tout le monde, « C'est lui mon élu. » C'est lui mon choisi, mon bien-aimé. Amen. Mais comme je vous disais tantôt, on peut pas en dire autant du reste de l'humanité. Tout ce qu'on a vécu, tout ce que le reste de l'humanité, sans exception, Il y a juste Jésus qui était le chouchou ou le favori ou le bien-aimé. Tout le reste de l'humanité a marché de façon à déplaire à Dieu, à faire mal au cœur à Dieu, puis à le blesser continuellement, puis à l'offenser, puis à l'outrager, puis à lui faire de la peine. Puis Dieu souffre de voir l'ensemble de l'humanité dans la déchéance où ce qu'on est rendu. C'est pas plaisant pour Dieu d'avoir créé une création dont tout l'ensemble a corrompu sa voie, son chemin. Puis il faut pas oublier que Dieu il est hautement affecté parce que la manière que les gens vivent aujourd'hui par leur méchanceté puis toute leur rébellion, qu'il a même annoncé d'avance qu'un jour où ce que Jésus va revenir, puis Jésus va juger tous ceux qui vivent tout croche. Tous ceux qui ne se sont pas repentis. Ça nous dit qu'au retour de Jésus, Dieu s'apprête à déverser sa colère sur l'ensemble des nations pécheresses. Puis il faut pas s'en étonner, car Dieu l'a annoncé dans plusieurs passages dans la Bible, comme quoi qu'il y a un jour de jugement sur cette terre, puis qu'il y a un jugement après ça devant le grand trône blanc, où ce que tout le monde va être jugé selon leurs œuvres. Même si on essaie de se cacher autour d'une roche, autour d'un cave ou d'un bunker, Dieu connaît chaque être humain sur la terre, puis il connaît nos voies, puis il s'attend à ce qu'on se tourne vers lui, puis qu'on se repente. Dans l'Apocalypse, le verset 19, au chapitre 19, le verset 15, ça nous parle juste, je vous donne juste un petit verset là, pour vous l'expliquer rapidement, que Jésus va revenir un jour, puis c'est annoncé d'avance, puis il va venir se renouer avec ses milliards d'anges, puis tous les gens qui sont avec lui, les êtres ressuscités. Il va revenir du ciel pour frapper les nations, puis il va les paître avec une verge de fer, puis il dit, il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il y a un jour où ce que c'était dit, où ce que Dieu va juger les nations qui détruisent la terre, puis qui détruisent les gens, puis qui font du mal. Puis Dieu l'a promis qu'il y aura ce jour-là qui viendra, puis on peut pas y échapper. Oui, on peut y échapper, il y a un chemin, puis je vais vous en parler dans les versets à suivre, puis c'est le chemin qu'on est encouragé de marcher, le chemin qui nous épargne de la colère à venir. Mais tout ça pour vous expliquer, le seul favori, c'est Jésus, puis l'ensemble de l'humanité marche d'une façon à s'attendre au jugement de Dieu. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour, même si on l'offense, même si on ne mérite rien, même si on méritera que des claques en arrière de la tête puis des coups de pied en arrière, Dieu nous aime puis il ne veut pas nous rester dans cet état-là. Il veut qu'on change de vie. Dieu, dans sa bonté, il a préparé un plan qui nous donnerait, malgré que nous sommes des indignes, malgré qu'on a tout manqué le but depuis notre naissance, il a préparé un plan pour qu'on ait accès à faire partie de ses enfants. Malgré qu'on est pécheur, il a préparé un plan pour qu'on puisse parvenir à devenir, à être un bien-aimé de Dieu. Wow! Là, c'est quatre choses, parce qu'il est obligé de passer par-dessus beaucoup de choses qu'on a faites qui l'a offensé, pour qu'il nous regarde, puis qu'il nous trouve, puis nous appelle des bien-aimés. Dans Romains 9, 24 à 26, ça nous dit, « Ainsi nous a-t-il appelés. » Oui, Dieu nous a appelés à faire partie de sa famille, de ses enfants, puis devenir, à être, sa bien-aimée. Regardez bien ce passage-là. Puis ça, il y en a non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens dont nous faisons partie. Selon ce qui est écrit dans Osée, ça c'est une promesse encore dans l'Ancien Testament. Il dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Voyez-vous? Il n'y avait juste un qui était le bien-aimé de Dieu, c'était Jésus. Puis là, dans une promesse de l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il appellera bien-aimé ceux qui n'étaient pas la bien-aimée. C'est qui ça qui n'était pas sa bien-aimée? c'est toutes nous autres sur la planète. Tout le monde était pour la bien-aimée, mais Dieu était pour faire une œuvre qui fera que tous ceux qui ne l'étaient pas, sa bien-aimée, puissent le devenir. Malgré nos péchés, on peut être appelé le favori de Dieu, les bien-aimés, les chouchous de Dieu. Et au verset 26, c'est là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, mais ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Wow, merci Seigneur de nous donner cet accès d'être appelé fils puis bien-aimé. Mais c'est quoi ce plan-là que Dieu a préparé pour qu'on puisse le devenir? Mais tout cela, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce au Seigneur Jésus qu'on peut être appelé peuple de Dieu, fils de Dieu, bien-aimé de Dieu, malgré qu'on ne l'était pas. Dans Éphésiens 1, 5 à 6, ça nous dit, il nous a prédestinés dans son amour. Voyez-vous, c'est à cause qu'il aimait ses créatures pécheresses, quand, même si on était des pécheurs. Il nous aimait quand même, dans le fond. C'est son amour qui est le mobile. Parce qu'il nous aimait, il a décidé de faire un plan pour pouvoir nous donner accès à être appelés ses bien-aimés. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Puis tout ça, ça devait servir à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde dans son bien-aimé. Il dit, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptés à cause de Jésus. À cause de Jésus, on peut être des adoptés puis être appelés des bien-aimés. Merci Seigneur. Puis ça, il faut rendre gloire à Dieu pour cela. Parce que c'est grâce à Dieu si Dieu trouve du plaisir en vous, en moi, en chacun de nous. Parce qu'on méritait rien, on était tous des pécheurs. Puis à cause de Jésus, ce que Jésus a fait, c'est en mourant sur la croix, il a versé son sang pour offrir une nouvelle alliance. Puis maintenant, tous ceux qui le veulent, à cause du sang de Jésus, on peut être lavé de nos péchés, complètement enlevé nos péchés. Que Dieu nous regarde, il ne voit plus nos péchés. Toutes les offenses qu'on y a faites, il a décidé d'éponger tout ça, puis de plus voir ça, de plus regarder cela. Puis il nous regarde maintenant, puis il voit Jésus sur nous. Grâce à Jésus, on a un nouveau statut devant Dieu. Dans cette nouvelle naissance que Jésus nous donne, ce nouveau statut-là nous donne maintenant d'être appelés des enfants de Dieu, d'être appelés des bien-aimés de Dieu. Dieu nous aimait, dans le fond, il y a de l'amour, même s'il est en colère. L'amour, il a décidé, à cause de son amour, il a décidé de pourvoir à un sacrifice qui nous permettrait d'être vraiment appelés des bien-aimés. Oui, merci Seigneur. Il nous a même décrit dans l'Ancien Testament quel était l'état de cœur que Dieu recherche et prend plaisir. Parce que bien aimer, là, c'est prendre plaisir aussi que ça veut dire. Quand il regarde la personne, là, il ne faut pas juste regarder que Jésus est là. La personne vit de façon à ce que Dieu aime, que Dieu prend plaisir. Parce que c'est pas tout de juste accepter Jésus. Il y a un nouveau mode de vie qui commence. Le mode de vie qui plaît à Dieu. Puis comment que ça commence? Tout ça, c'était annoncé déjà dans l'Ancien Testament, dans Jérémie au chapitre 31, les versets 19 et 20. Ça nous parle d'un super de beau passage qui nous parle de l'état de cœur que Dieu recherche pour que Dieu prenne plaisir en nous. Ça nous dit, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Ça nous parle de quelqu'un qui vivait tout croche, qui s'était détourné de Dieu, qui vivait dans le péché. Puis cette personne-là, après qu'elle s'est détournée de Dieu, ça dit, il a réalisé qu'il était détourné de Dieu. Puis là, il dit, après m'être détourné de Dieu, j'éprouve du repentir. Ça veut dire que cette personne-là a réalisé son état, qu'elle s'était détournée de Dieu. à réaliser son état, que sa vie, c'est du péché devant Dieu, elle offense Dieu, elle s'est détournée de Dieu, il réalise, puis il veut se repentir, ça veut dire qu'il se détourne, il change d'idée, puis en plus, il regrette l'état dans son cœur, il regrette l'état où ce qui en est rendu, au point de se retourner vers Dieu, puis de demander quelque chose à Dieu. Regardez bien, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, puis je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Il y a la honte d'avoir vécu une vie de jeunesse dans sa débauche, dans sa perversion, dans ses péchés, puis il se frappe la cuisse, puis il le regrette, puis il a réalisé que c'était détourné, puis là, son cœur est déchiré, puis il change de direction, puis il demande pardon au Seigneur. C'est ça l'état de cœur que Dieu aime, de voir des gens qui réalisent leur état, puis qui changent de vie, qui changent de conduite, qui changent de direction, qui retournent vers Dieu en regrettant ce qu'ils ont vécu, puis en ayant honte. Parce que c'est ça qui est un peu le mot « repentance ». C'est pas juste changer d'idée comme la Bible Louis II, 21, a écrit dans beaucoup de passages en enlevant le mot « repentance », ils ont dit « changer d'idée ». C'est pas juste changer d'idée, le mot repentance. C'est aussi une affliction, des actes de contrition. Tu regrettes, ça t'attriste, t'es blessé, tu réalises ton état, tu t'en veux, tu veux changer, tu veux te détourner de ta vie de tout croche pour retourner vers Dieu. C'est ça la vraie repentance qui fait plaisir à Dieu. Il dit, là, au verset 20, regardez, c'est Dieu qui répond. « Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? » Oui. Quand cette personne-là se repent comme qu'il vient de faire, il est devenu l'enfant chéri, celui que Dieu en fait ses délices. C'est pas sa vie de péché. Dieu est prêt à l'oublier, sa vie de péché, si la personne a un cœur repentant, puis qu'elle regrette, puis qu'elle veut changer de vie. Dieu prend plaisir de nous voir se détourner du mal, puis se retourner vers lui. Puis tu deviens un fils chéri, bien-aimé. C'est ça que ça veut dire, où ce que Dieu va prendre plaisir. Il va te regarder parce que tu t'es repenti, puis Dieu va être content, il va être fier que tu te détournes du péché. Puis ça, c'est dans chacun de nos péchés. Quand tu regrettes, puis tu veux changer, puis tu demandes au Seigneur, puis tu t'en veux, puis tu as de la honte, puis c'est ça le cœur que Dieu recherche. Quand on dit dans parole, David est un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas à cause juste de sa foi. C'est à cause qu'il était capable de s'humilier et de regretter dans cette condition-là. C'est lui qui nous a écrit, non, c'est pas lui qui nous a écrit, excusez, dans Jérémie, celle-là, mais des autres passages que Dieu, je regarderai dans les psaumes, le psaume 51, où ce qui parle de la repentance de David, où ce qui se repent d'avoir péché contre Dieu, puis réalise qu'il est un pécheur, puis il supplie Dieu dans ce passage-là en disant « Retire-moi pas ton Esprit Saint », puis il épanche son cœur dans ce psaume-là pour démontrer comment ce qui est repentant d'avoir péché, d'avoir été vers Bathsheba, etc. Mais Dieu veut nous faire comprendre comment devenir un fils chéri. Puis là, Dieu est encore en train de parler. Il dit, car, c'est encore Dieu qui parle, plus que je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi, ou si mes entrailles sont émues en sa faveur. Quand tu te repens devant Dieu, Dieu, il pense, puis il repense au fait que tu es en train de te repentir, puis tu es un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui se repent, Dieu devient ému, puis il part à broyer. C'est ça, être ému. Il pleure de nous voir, il est fier de nous voir qu'on se repent de nos péchés. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu aime voir ses créatures changer de voie, changer de vie, demander pardon, regretter nos fautes, puis s'en détourner. Quand on fait ça, on tombe dans la manche à Dieu. C'est ça, on prend plaisir, on devient un enfant chéri. Tu as des enfants, mais tu as des enfants chéris, que tu chéris encore plus parce que tu es fier d'eux autres. Tu es content de ce qu'ils font. Pas quand ils ont péché, c'est quand ils se sont repentis. C'est la repentance qui fait que Dieu il est profondément touché. Dieu il est sensible à cela, puis ça le touche. Puis il dit, mes entrailles sont émues en sa faveur, mais j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Wow! Ça veut dire, si on marche dans repentance, on demande pardon au Seigneur, puis tu réalises ton état, puis tu veux changer de vie, Dieu non seulement qui est prêt à, qui est touché en ta faveur, mais en plus de ça, il va prendre pitié de toi. Ça veut dire qu'il va te tendre la main, puis il va te secourir. Il va te pardonner, mais en plus de ça, il va te relever. Il va te bénir. Il va prendre soin de toi. Voyez-vous que être chéri de Dieu, ça a des avantages. Allez le voir dans le prochain verset que je vais vous parler. Où ce que David, comme je disais tantôt, David nous l'enseigne que l'Éternel bénit ceux en qui il prend plaisir. Ça, c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament, que Dieu prend plaisir en, puis il veut, quand il prend plaisir en toi, il veut te bénir, il veut te faire du bien. T'es son favori, t'es son chouchou. La terre entière est pour toi. C'est ce qu'il dit. Heureux, il y a des dans les béatitudes, là. Il dit, heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Mais on parle de ceux qui sont envers l'Éternel, des gens qui aiment l'Éternel, puis qui marchent pour l'Éternel. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tout est pour ceux qui aiment le Seigneur, puis qui se tournent vers lui, puis qui marchent d'une façon ce qui plaît à Dieu. Tout est pour nous. C'est promis. Dans le psaume 37, les versets 22 à 28, c'est un autre passage dans l'Ancien, c'est David qui nous enseigne que l'Éternel bénit ceux en qui il prend plaisir. Êtes-vous de ceux en qui Dieu prend plaisir?
Amen.
Il me semble qu'il n'y a pas gros d'amen. Si vous êtes à Jésus-Christ, vous avez demandé pardon au Seigneur pour vos péchés, puis vous en êtes détourné, puis vous êtes encore dans le combat, puis vous êtes encore en train de vous détourner de vos péchés, vous êtes les favoris de Dieu. C'est ça le chemin. Puis tu vas l'avoir ce combat-là, parce qu'il y a des péchés qui reprennent surface, tu t'en repens encore, puis tu t'en détournes, puis tu mets toujours ta vie en règle, puis tu as peut-être encore des combats, mais tu te relèves, vous allez le voir, que Dieu est avec vous, puis dans sa bénédiction, il va te relever, il va t'aider. Dans le psaume 37, le verset 22 à 28. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Si tu fais partie des favoris de Dieu, de ceux que Dieu bénit, tu possèdes le pays. Il n'y a pas une phrase que l'apôtre Paul dit, tout est à vous. Soit le monde, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. On ne l'a peut-être pas encore en notre possession, Jésus non plus ne l'a pas encore en sa possession. Dans pas longtemps, ça ne sera pas long, Jésus va revenir, puis tout va être remis à Jésus et à ses disciples, aux êtres ressuscités. Ça s'en vient, il ne faut pas perdre courage. Je recommence la phrase dans le verset 22, « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. » L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. Quand je vous disais tantôt, quand tu tombes dans la manche de Dieu, tu es son favori, tu es son chouchou, il prend plaisir à ta voix. C'est quoi que Dieu aime quand il nous regarde? Il regarde quand on marche dans la justice, dans la droiture, dans des vies conformes à sa parole. C'est ça que Dieu aime. Puis si on a péché, mais il aime nous voir se repentir. Il aime nous regarder quand on demande pardon, puis qu'on lui demande de l'aide, puis qu'on crie à lui, puis qu'on s'en veut parce qu'on a péché. On veut pas rester dans l'état où nous sommes, mais Dieu prend plaisir à sa voix. Puis là, Dieu affermit les pas de l'homme. Ça veut dire que Dieu, il prend plaisir, il te regarde, il est fier de toi, puis en plus, il va t'aider, il va t'affermer, il va te solidifier, il va te faire grandir, il va t'équiper, il va te faire du bien, puis il va t'enseigner, puis il va te montrer, puis il va te donner tout ce que tu as besoin pour que tu marches droit devant le Seigneur. Parce qu'il t'aime, puis il prend plaisir à ta voix. Tu es son favori. Il ne te laissera pas tomber. Verset 14, 24. S'il tombe, ça peut arriver, là. Tu es un disciple, tu marches dans la voie du Seigneur, tu t'enfarges à cause que tu pratiques un péché, tu as manqué ta shot, tu as dit des paroles, tu n'as pas d'affaires, ou tu as fait de quoi qui offense à Dieu, qui est à contre sa parole. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Terrassé, ça veut dire, t'es perdu, t'es fini, t'as tombé, puis il n'y a plus rien à faire pour te relever. Quand tu tombes, t'es pas terrassé, parce que l'Éternel te tend la main. Puis il te dit, viens, relève-toi, fortifie-toi, repends-toi. Puis là, il te prend la main, puis il te relève, il t'aide à te relever. Ça, là, c'est quelque chose que ce que je vous dis là. Faut comprendre que Dieu nous aime puis il veut nous porter dans ses mains, il veut nous protéger, il veut nous bénir. Puis ça, on va le voir plus la semaine prochaine sur ce côté-là. Mais déjà de savoir que si tu tombes, t'es pas terrassé, c'est pas fini pour toi. Dieu t'appelle encore en te tendant la main puis il dit relève-toi, repens-toi. Reviens sur ta décision, pratique le bien, reviens dans mon chemin. Puis là, il dit, tends la main, puis il te relève. Là, il dit en continuant, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, puis j'ai pas vu le juste abandonné. Les justes devant Dieu, c'est ceux qui abandonnent pas, qui persévèrent jusqu'à la fin dans la foi au Seigneur. Puis ils reculeront pas, puis ils voudront pas retourner dans le monde, puis ils voudront pas marcher dans les chemins qui sont pas les chemins du Seigneur. Tu marches avec le Seigneur, tu tombes, t'es pas terrassé, tu te relèves, tu reprends la main du Seigneur, tu lui demandes pardon, puis tu marches encore, puis tu lâches pas. C'est ça les justes qui vont rentrer un jour. Et j'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu va toujours pourvoir à ce que tu aies de quoi manger et que tu puisses vivre. Toujours, en parlant de Dieu, il est compatissant. Non, pardon, c'est en parlant du juste. Toujours, il est compatissant, il prête, puis sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Puis il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Voulez-vous faire partie des bénis de Dieu ou ce que Dieu va vous garder dans sa main, puis il va toujours vous bénir? Persévérons comme le juste est enseigné à ce passage-là, avec le cœur de repentance qui était écrit dans l'autre verset. Gardons cette attitude-là d'humilité devant Dieu, d'être capable de demander pardon quand on fait des choses qui sont pas dans le plan de Dieu. Puis changeons notre conduite. Marchons de plus en plus conformes à la parole de Dieu. Pour Dieu, ses favoris sont importants. C'est pas de sa volonté qu'il se perde aucune de ses brebis. Puis à cause de cela, il nous met un beau passage dans Zacharie, chapitre 2, verset 8 et 9, et dit, « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » On est important en tant que brebis du Seigneur, on est ses bien-aimés. Celui qui fera du mal à un de ses bien-aimés, c'est comme si tu viens de mettre le doigt dans l'œil à Dieu, là, tu sais. Puis là, Dieu dit, voici, je lève ma main contre elles, ceux qui nous font du mal. Dieu va lever sa main contre ces gens-là. puis elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Dieu va renverser les choses, puis ceux qui nous font du mal, ils vont être les ceux qui vont être sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, nous sommes les bien-aimés. Là, je vous ai expliqué c'est à quoi le chemin que Dieu s'attendait en tant que bien-aimé, c'est de marcher dans la repentance, puis de marcher fidèle dans le chemin qui est le chemin de Dieu. Malgré le fait d'être des bien-aimés, gardons toujours la crainte de l'Éternel, puis prenons garde à notre conduite afin d'éviter le châtiment de Dieu. Ouais, mais tu viens de me dire que je suis un bien-aimé. Oui, on est des bien-aimés. Il faut rester obéissant. Parce que Dieu nous dit aussi, dans l'Apocalypse 3:19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Oui, on est des bien-aimés. Il nous aime. Mais il reprend et châtie. Comme un père. Et ça nous dit dans le Proverbe 3:12, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Tu peux être un chéri de Dieu, puis manger une claque de temps en temps. Un coup de pied dans l'œil. Parce que tu t'écoutes pas. Faut pas attendre de pas écouter. Dieu veut qu'on rentre. Il veut pas nous perdre. Il est obligé des fois de nous serrer à la vis. Quoi? Mon père nous pognait par le bras ici. Puis il nous emmenait, viens ici. Là, il était assis sur une chaise. Là, il nous assisait sur la chaise parce qu'on était pas tranquille. Mais des fois, Dieu est obligé de faire la même chose avec nous autres. Faut pas attendre qu'il nous punisse, qu'il nous mette dans la pénitence. Faut écouter, faut avoir la crainte de Dieu. Si on se repent, il n'y aura pas de châtiement. Tu t'es repenti, t'es pardonné, il te relève, il te fortifie, c'est ce qu'il nous dit. Mais si on n'écoute pas, on peut tomber sur le châtiment de Dieu, même si on est des bien-aimés. Parce qu'il reprend et châtie tous ceux qu'il aime. Parce qu'il nous aime, puis il veut qu'on se rende. C'est pour ça qu'il serre la vis. Les autres, ils n'ont pas encore part au jugement. Ils sont laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Les gens du monde, ils ne sont pas frappés par Dieu dans ce qu'ils méritent. Nous, on l'est parce qu'il veut nous corriger. Il veut qu'on change de conduite, puis il veut qu'on ajuste notre vie conforme à sa volonté. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit, 3:19, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » Voyez-vous, il nous donne l'avertissement qui va punir, qui est quelqu'un qui punit ceux qui aiment, mais il veut pas nous punir, il nous dit, « Aie du zèle et repens-toi. » Change de vie, arrête de faire ça, écoute. Il nous montre des affaires, le Seigneur, mais on n'écoute pas des fois. On attend, puis on étire ça, puis on veut rester dans nos péchés. Est-ce qu'il y en a que ça leur est arrivé? J'espère que tout le monde va lever la main. Hein? On est tous comme ça. Parce que si on a de la misère à lever la main, c'est parce qu'on n'est pas prêt à avouer notre état. On pense qu'on est correct tout le temps. C'est faux, on n'est pas tout le temps correct. On est pécheur. Puis dans notre nature même, on est porté toujours à désobéir. Puis il nous montre des affaires, puis on ne veut pas écouter. Puis il nous le montre, puis il nous dit des affaires. En lisant la Bible, en écoutant des prêches, on réalise des affaires où il nous parle dans notre journée. Puis on résiste, puis on ne veut pas. Mais il faut écouter. Avoir du zèle, se repentir, ça fait partie du chemin que Dieu aime. Puis que ça, c'est le chemin des favoris de Dieu. Puis on aura tout à gagner de marcher toujours dans la soumission à Dieu, volontaire, tu sais, d'être toujours prête, le premier, oui, pas de suite. Hey, là, on serait encore plus choyé, plus béni. Demeurons parmi les favoris de Dieu. Parce qu'il y en a qui abandonnent. Les justes, ils abandonnent pas, mais il y a des gens qui abandonnent. Là, ils sont appelés des injustes. Ils rentreront pas. Faisons partie des justes, des favoris de Dieu, en veillant sur notre conduite. Il faut faire attention de la manière qu'on vit en tant que chrétien. Parce que sa bénédiction va demeurer sur nous, si on est comme cela. Regardez bien le dernier passage dans 1 Pierre 3, de verset 10 à 12. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, voulez-vous avoir une vie dont vous aimez puis être heureux? Qui veut pas une vie comme cela, là? Hein? Si vous voulez aimer la vie puis avoir des jours heureux, il y a un mode de vie qui est enseigné dans ce verset-là. C'est dans le Nouveau Testament, cela. Qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car, là, il y a des belles promesses du Seigneur. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. C'est des favoris. Ses yeux sont là sur lui. Puis il va tout écouter les prières que cette personne-là va faire parce qu'elle marche d'une manière qui plaît au Seigneur. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui fassent le mal. Si on marche dans le mal, Dieu se revêt. Il n'est pas capable de regarder ça, le mal. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu exauce nos prières quand on est une personne qui vit dans le mal. C'est pour ça qu'il nous invite à nous repentir, puis à lui demander pardon, puis à retourner à lui. Puis là, il est content, puis il nous regarde, puis on est son favori, puis il nous relève, puis il nous fortifie, puis il nous bénit, puis il nous donne tout. Mais le contraire, c'est ceux qui marchent tout croche, puis déplaisent à Dieu, puis n'ont pas la crainte de Dieu, puis ils se repentent pas. Mais il dit que la face du Seigneur se détourne de celui qui fait le mal. La foi qui sauve, c'est une foi avec des œuvres qui sont des œuvres d'obéissance, de marcher dans la justice, dans la droiture, puis vous allez être les favoris de Dieu, puis vous allez demeurer des favoris de Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci de nous révéler que nous sommes tes bien-aimés. Merci de nous avoir amenés à Jésus pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse recevoir cette nouvelle vie en toi. Merci de nous changer, de nous transformer, de nous relever, de nous fortifier pour qu'on marche de plus en plus conforme à ta parole. Garde-nous dans la foi. Garde-nous dans le chemin. Qu'on ne se laisse pas détourner, qu'on ne marche pas loin de toi. On veut obtenir de toi toutes tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Dans le nom de Jésus. Amen.